Quel est le seul livre de la Bible dans lequel Dieu n'est pas mentionné?
Esther.
C'est la question que j'avais posée en introduction à une série de prédications données tout au long de l'été sur le livre d'Esther. Et donc, comme la rentrée est là, qu'une nouvelle année démarre, il est temps de finir ce parcours pour passer à la saison suivante, comme dans les séries. Et nous avions en fil conducteur de cette série de prédications cette question: où est Dieu? Où est Dieu? Que fait-il? Et comment intervient-il pour sauver son peuple de l'extermination? Nous avons suivi, étape par étape, les situations et les retournements de situation d'une histoire où Dieu est absent dans le texte, mais il est constamment à l'œuvre dans l'histoire humaine. Ce matin, c'est donc le sixième et dernier épisode de cette saga, de cette série. Et si vous voulez écouter ou réécouter les épisodes précédents, vous pouvez les télécharger gratuitement sur le site de l'église. Profitez-en. www.eglise-blanc-mesnil.fr. Et j'aimerais reprendre la lecture ce matin dans le livre d'Esther au chapitre 9 et au verset 20. Esther, chapitre 9, verset 20. Nous allons lire ce texte en plusieurs fois, jusqu'au bout, jusqu'à la fin du chapitre 10. Et il y a une bonne partie du texte qui est comme un résumé de toute l'histoire. Donc je ne fais pas de résumé en introduction, nous allons relire les grandes lignes de l'histoire dans le cours de la lecture. Lisons pour l'instant du verset 20 au verset 23. Mardochée enregistra ces événements, c'est-à-dire la révolte des Juifs contre ceux qui voulaient les exterminer, enregistra ces événements par écrit et envoya des lettres à tous les Juifs installés dans toutes les provinces du roi Assuérus, qu'ils soient près ou loin. Il leur prescrivait de célébrer chaque année les 14e et 15e jours du mois d'Adar. En effet, c'étaient les jours où les Juifs avaient obtenu le repos vis-à-vis de leurs ennemis, le mois où leur tristesse avait été transformée en joie et leur deuil en fête. Ils devaient donc faire de ces jours des jours réservés au banquet et à la joie, où l'on s'envoie des cadeaux les uns aux autres et où l'on fait des offrandes aux pauvres. Les Juifs s'engagèrent à poursuivre ce qu'ils avaient déjà commencé de faire et ce que Mardochée leur avait prescrit. Jusque-là, la lecture pour l'instant. Dans ces versets, nous voyons encore un décret, encore une loi qui paraît dans ce royaume perse. C'est Mardochée, un des héros de l'histoire, qui fait proclamer ce nouveau décret. Il est le nouveau premier ministre, Aman, le méchant Aman est mort, et c'est lui maintenant qui est le premier ministre de l'Empire perse. Et donc, ce décret dit que les 14e et 15e jours du mois d'Adar seront des jours de fête et de réjouissance. Le 13e jour de ce mois devait être le jour de l'extermination du peuple juif. C'était ça le plan qu'avait déterminé, prémédité Aman. Mais ce plan a échoué. Dieu l'a fait échouer. Et au lieu d'une extermination, ce jour est devenu un jour de résistance et de délivrance. Et c'est la raison pour laquelle tous les Juifs dispersés dans l'Empire perse sont invités par ce décret à célébrer sur 2 jours la délivrance que Dieu a opérée. Dieu a finalement renversé la situation. La tristesse des Juifs s'est transformée en joie. Leur deuil et leur jeûne se sont transformés en fête, en banquet. Dieu a sauvé son peuple et il faut s'en souvenir. Nous avons célébré un autre repas, plus symbolique, celui-là, tout à l'heure. Dieu aime à ce que nous nous souvenions de son salut. Il sauve son peuple. D'où ce nouveau décret qui est publié, proclamé par Mardochée, et un engagement de tout le peuple juif à célébrer cette fête. C'est ce que nous dit l'auteur au verset 23. Les Juifs s'engageaient à poursuivre ce qu'ils avaient déjà commencé de faire, ils n'avaient même pas attendu ce nouveau décret, et ce que Mardochée leur avait prescrit. Donc les Juifs suivent ce décret et organisent ces jours de fête. Comment s'appelle cette fête ? Elle s'appelle la fête des Pourim. Fête des Pourim. Et le livre d'Esther a été écrit en partie pour répondre à cette question. Pourquoi cette fête ? Quelle est cette fête ? La fête des Pourim. Et la suite du texte va nous le confirmer. Lisons maintenant à partir du verset 24. Esther, chapitre 9, verset 24 jusqu'au verset 28. Voilà le résumé du livre d'Esther. En effet, Aman, fils d'Amedata la Gagite, qui était l'adversaire de tous les Juifs, avait projeté de les faire disparaître et il avait jeté le pour, c'est-à-dire le sort, en vue de semer le trouble parmi eux et de les faire disparaître. Cependant, Esther s'était présentée devant le roi, et celui-ci avait ordonné par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le funeste projet qu'il avait formé contre les Juifs, et de le pendre à une potence ainsi que ses fils. Voilà pourquoi on appela ces jours « Pourim » d'après le mot « pour ». Voilà pourquoi aussi, en s'appuyant sur toutes les instructions de cette lettre, sur ce qu'ils avaient eux-mêmes vu et sur ce qui leur était arrivé, les Juifs prirent l'engagement irrévocable pour eux, pour leur descendance et pour tous ceux qui se joindraient à eux, les prosélytes, ceux qui se font juifs, de garder le souvenir de ces jours et de célébrer de génération en génération dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville ces fêtes, et de ne jamais laisser ces jours des Pourim disparaître du milieu des Juifs, ni leur souvenir s'effacer parmi leurs descendants. L'auteur nous donne là l'explication de la fête des Pourim. Pourim vient du mot « pour » qui n'est pas un mot hébreu, qui est un mot perse et qui signifie le sort. C'est le sort qui a été jeté par Aman pour fixer la date de l'extermination des Juifs. Et nous avions vu que le sort était tombé sur la toute fin de l'année, ce qui laissait le temps à Dieu de retourner la situation. Non pas que Dieu n'aurait pas pu retourner la situation comme ça d'un instant à l'autre, mais Dieu agit dans le temps et dans l'histoire humaine. Ironie du sort, si je puis dire. Le nom qui sert à nommer cette fête, Pourim, renvoie à ce qui a échoué dans cette histoire. Aman a lancé les Pourim, a lancé le sort pour faire le mal. Mais le mal qu'il avait prémédité est retombé sur sa tête, nous dit le texte, et sur ceux qui ont suivi son exemple, ses fils, et aussi, nous l'avions vu la dernière fois, ceux qui ont été tués lors de la résistance des Juifs, parce qu'ils voulaient les exterminer. Cette fête aurait pu s'appeler « fête de la résistance » ou fête de la délivrance. Non, elle s'appelle fête des Pourim. Et il me semble qu'il y a là, de la part de l'auteur, quelque chose qui nous dit « Voilà ce qu'il advient des projets purement humains. » Là où les hommes veulent et projettent le hasard, c'est Dieu qui est à l'œuvre et qui dirige l'histoire humaine. Là où le sort avait décidé, entre guillemets, de la condamnation à mort des Juifs, Dieu instaure pour son peuple d'Israël 2 jours de réjouissance. Et donc, quand on fête les Pourim, on se rit du sort. On se rit du sort que lancent les hommes et on s'émerveille de la délivrance opérée par Dieu. Par le nom même de cette fête, les Juifs se rappelaient que ce que les hommes appellent hasard est entre les mains de Dieu, entre les mains du Dieu Tout-Puissant qui réalise son plan de salut. En lisant ce passage, j'ai pensé à un texte du Nouveau Testament. Je vous lis quelques versets. Ce sont les apôtres, après la Pentecôte, après que l'Esprit soit descendu sur eux et qu'ils se mettent à annoncer la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus. Après que certains d'entre eux aient été arrêtés par les autorités juives, que les autorités leur aient dit « Ne parlez plus dans ce nom-là, Jésus !» Voilà que les apôtres se réunissent pour prier. Et ils disent, ils s'adressent à Dieu et ils disent « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de ton serviteur David, pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qu'il a désigné par onction, le Messie Jésus-Christ. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. » Actes chapitre 4, versets 24 à 28. Là aussi, des hommes se sont mis ensemble et ont comploté, on pourrait dire, pour assassiner le juste, Jésus le Messie, Jésus le Sauveur. Et ils pensaient accomplir leur propre projet. Et pourtant, leurs mauvaises actions, leur méchanceté étaient entre les mains de Dieu qui dirigeait l'histoire. Et ils ont, sans le comprendre, accompli la volonté de Dieu. Le livre d'Esther, dans le passage que nous méditons ce matin, nous invite à laisser Dieu transformer notre regard sur la réalité de nos vies. C'est ce que je vous invite à retenir de ce passage ce matin. Ici, nous avons un choix entre deux attitudes. Tout le livre d'Esther, et ce passage qui résume le livre, nous le dit, il me semble. Nous pouvons soit considérer les circonstances de nos vies, les difficultés que nous traversons, concernant le travail ou le chômage, concernant la santé ou la maladie, concernant les joies ou le deuil. Nous pouvons considérer tout cela comme des coups du sort, du destin, d'un cycle qui est plus ou moins contre nous et qui d'une manière ou d'une autre nous fait nous méfier de Dieu. parce que nous ne savons pas trop quel tour il va nous jouer. Ou alors, nous pouvons considérer que derrière toutes ces circonstances, il y a un Dieu bon, un Dieu juste, et un Dieu qui maîtrise parfaitement le cours des événements. Et c'est ce Dieu-là dont parle le livre d'Esther, même si l'auteur ne le mentionne pas une seule fois. Et mettre sa foi, mettre notre foi dans ce Dieu-là pour trouver la force de traverser les épreuves et laisser Dieu nous former, nous façonner à l'image de Jésus-Christ au travers de notre vie professionnelle, au travers de notre vie de couple, au travers de notre vie de famille, au travers de notre vie d'église. C'est un choix qui rend possible de voir Dieu au cœur de nos souffrances et de voir sa grâce nous accompagner au quotidien. Et là où le diable veut nous accuser ou nous faire chuter, comme c'était le projet d'Aman et les Pourim, jeter le sort pour semer le mal, eh bien, dans ces moments-là, nous pouvons nous souvenir que Dieu est venu en Jésus-Christ pour lever la malédiction et, comme pour ce peuple d'Israël, transformer notre tristesse en joie. Cela ne veut pas dire que la tristesse disparaît comme ça, comme par enchantement. Cela veut dire que Dieu veut prendre notre tristesse sur lui et la transformer en joie. Cela peut prendre du temps. Mais voilà ce que Dieu veut faire dans nos vies. Et cela, le sort, le destin ne le permet pas. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui va coincer et qui va nous rappeler que finalement, Dieu n'est pas bon ou Dieu n'est pas juste. Et que la vie que Dieu nous a donnée, ça ne va pas. Et que si nous, nous pouvions décider, alors nous saurions quoi faire. Et ça, c'est le mensonge du serpent. Vous serez comme des dieux. Vous avez péché ? 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice, de toute iniquité. Vous êtes fatigué ce matin ? Venez à moi, dit Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous êtes éprouvés ou tentés d'une manière ou d'une autre en ce moment. Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, « Aucune tentation, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Dieu est bon. Dieu veut nous aider à supporter les épreuves. La question fondamentale n'est pas tant « Pourquoi ceci m'arrive-t-il ?» mais comment est-ce que je vais traverser cette épreuve ? Et là, il y a deux solutions, avec Dieu ou sans Dieu. Jésus-Christ est mort pour nos péchés et il est ressuscité pour nous donner l'espérance de la vie éternelle. Ce n'est pas là une pilule du bonheur ou un remède qui, dans toutes les situations, va marcher de la même manière. Prier au nom de Jésus ne va pas automatiquement nous déverser sur nous une bénédiction comme nous l'imaginons, comme nous l'attendons. Mais Dieu veut être présent. Dieu veut sauver son peuple. Dieu veut nous accompagner et changer nos deuils en allégresse. Il y a là, me semble-t-il, un appel très fort dans ce texte et dans toute l'histoire du livre d'Esther. Et donc, je vous invite à faire une courte pause dans cette prédication, à incliner nos têtes et à prier. Et j'aimerais prier, peut-être vous pouvez reprendre à votre compte cette prière. Nous arrêter quelques instants sur l'œuvre de Dieu. Seigneur, merci pour ta présence dans l'histoire humaine. Merci pour le salut que tu opères en Jésus-Christ. Seigneur, je te prie que si quelqu'un parmi nous ce matin ne te connaît pas personnellement, n'a pas saisi personnellement ce sacrifice qui nous sauve et cette résurrection qui nous donne l'espérance d'une vie pour toujours avec toi, où il n'y aura plus de larmes, où il n'y aura plus de difficultés, où il n'y aura plus d'échecs. Seigneur, ouvre la porte des cœurs ce matin. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à son Église. Et pour nous qui avons saisi cette promesse par la foi, cette grâce que tu nous as faite de nous sauver en Jésus-Christ, encourage-nous, renouvelle-nous, restaure-nous, aide-nous à persévérer dans la foi, pour que nous puissions, dans nos difficultés, croire et vivre du salut que tu nous offres en Jésus-Christ. Que nous puissions traverser les épreuves en tenant bon. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons poursuivre la lecture. Esther, chapitre 9, au verset 29. La reine Esther, fils d'Abishaïl, et le juif Mardochée écrivirent une seconde fois avec toute l'autorité qui était la leur, pour confirmer la lettre relative au Pourim. On envoya des lettres à tous les juifs dans les 127 provinces du roi Assuérus. Porteuses d'un message de paix et de vérité, elles confirmaient la date fixée pour les jours des Pourim par le juif Mardochée et la reine Esther, mais aussi par les Juifs eux-mêmes, pour eux et leur descendance, et contenaient les instructions relatives aux jeûnes et aux cris qui les accompagnaient. Ainsi, l'ordre d'Esther confirma ces instructions relatives au Pourim, et il fut enregistré par écrit dans un livre. Là où le décret d'extermination des Juifs proclamé par Aman avait été envoyé partout, dans l'Empire. Maintenant, c'est un autre décret qui est diffusé partout dans l'Empire. Réjouissez-vous, vous avez été sauvés. Ce deuxième décret vient confirmer celui dont nous avons parlé tout à l'heure, confirmer les jours fixés pour la fête des Pourim. Et ce deuxième décret, insiste sur la nécessité pour le peuple juif de célébrer cette fête de génération en génération. Il y a là une fête qui doit se transmettre. D'après mes informations, je ne suis pas un spécialiste de la culture juive, les Juifs pratiquent encore aujourd'hui le jour de jeûne, le 13e jour du mois d'Adar. Ils appellent cela le jeûne d'Esther, qui se situe un jour avant la fête des Pourim. Donc le 13e jour, ils fêtent le jeûne d'Esther et ensuite la fête des Pourim. Question, les chrétiens doivent-ils aussi observer cette fête et ce jeûne? Et j'aimerais faire quelques remarques à ce sujet. D'abord, il me semble que les premiers concernés, ce sont les gens qui sont d'origine et de culture juive, puisque le texte ici s'adresse à eux de génération en génération dans la nation juive. Mais, deuxième remarque, nous avons une histoire commune, au moins en partie. Le salut, la délivrance dont l'histoire d'Esther est une annonce, ce salut, cette délivrance sont venus par Jésus-Christ. La nation juive aujourd'hui ne reconnaît pas Jésus comme leur Messie. Ils l'attendent donc encore. Et ce qui sera pour nous un retour de Jésus sera pour eux la venue de Jésus. Mais nous voyons dans le Nouveau Testament que le Fils de Dieu s'est fait homme juif, né en Palestine, descendant du roi David. Dieu s'est incarné dans l'histoire humaine et en particulier dans le peuple juif. Nous avons donc une histoire en commun. Et nous fêtons Pâques, par exemple. D'après mes recherches, le Nouveau Testament ne mentionne pas du tout la fête des Pourim. Il est très probable que les contemporains de Jésus, et probablement Jésus lui-même, fêtaient les Pourim. Mais cette fête n'est pas mentionnée comme une fête importante, contrairement à la Pâque, par exemple, où on voit Jésus et ses apôtres préparer, fêter la Pâque régulièrement. Le seul jeûne, c'est-à-dire le fait de se priver de nourriture, le seul jeûne qui est associé à une fête dans le Nouveau Testament, semble être le jour des expiations, une fois par an. Jour des expiations avec un jeûne communautaire pour la nation juive. Quatrième remarque, Jésus lui-même ne faisait pas du jeûne une nécessité. Interrogé par les disciples de Jean-Baptiste, qui étaient surpris que Jésus et ses disciples se permettent de ne pas jeûner, Jésus répond que sa présence remplace le jeûne. Pour Jésus, il n'est donc pas obligatoire de pratiquer un jeûne, c'est-à-dire de se priver de nourriture pendant un certain temps, que ce soit individuellement ou collectivement. Je remarque que Paul et les autres auteurs du Nouveau Testament ne parlent pas non plus de la fête des Pourim et ne considèrent pas eux aussi le jeûne comme une obligation. Voilà la conclusion à laquelle j'en arrive. Nous pouvons respecter le fait que certains pratiquent ce jeûne et cette fête des Pourim. Nos amis juifs le font aujourd'hui. Mais il me semble que la Bible ne nous demande pas, en tant que chrétiens, de célébrer cette fête et de pratiquer ce jeûne de génération en génération. Par contre, la Bible nous invite à lire et à relire l'histoire d'Esther. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'avais choisi de faire avec vous, de suivre avec vous, dans cette série de prédications, tout le livre. Il y a des livres dans l'Écriture que nous oublions ou que nous ne lisons pas toujours, ou qu'il est bon de relire. Et il me semble que l'histoire d'Esther est un livre qu'il est bon de relire. Pourquoi ? Parce qu'elle est un avant-goût de l'œuvre de Jésus-Christ. Sans l'intervention de Dieu dans l'histoire de son peuple à l'époque d'Esther, nous ne serions tout simplement pas là ce matin. Les Juifs n'auraient pas continué d'exister, Dieu ne se serait pas incarné en Jésus dans la nation juive. Et l'Église, les chrétiens n'auraient pas été greffés sur le peuple de Dieu, puisqu'il n'y aurait plus de peuple de Dieu. Dieu a sauvé le peuple juif dans cette histoire d'Esther. Le plan diabolique de Haman nous parle du mal qui œuvre dans notre monde et aussi dans notre cœur. Le plaidoyer d'Esther, quand elle est intervenue devant le roi pour plaider la cause de son peuple, son rôle annonce le rôle d'avocat de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui, à la croix, a cloué la dette de notre péché contre Dieu, et qui, aujourd'hui, ressuscité et glorifié auprès de Dieu, plaide notre cause au ciel il règne pour nous et il prie pour nous. Et il règne sur nous. L'histoire d'Esther nous montre que le mal ne triomphe pas. Le salut de Dieu se réalise et il ira jusqu'au bout. C'est le bien qui triomphera du mal. L'histoire d'Esther nous montre aussi que rien n'est laissé au hasard. Dieu dirige l'histoire humaine en son temps et selon sa parfaite volonté. Enfin, le livre d'Esther termine sur la fête et les réjouissances. Et de la même manière se terminera notre histoire. En tout cas, une partie de notre histoire. Tous ceux qui, par la foi, comme je le disais tout à l'heure, auront saisi cette grâce que Dieu nous fait en Jésus-Christ, nous attend un repas de noces, un repas de fête, des réjouissances, plus de larmes, de la joie, plus de deuil, la fête pour toujours, les noces de l'agneau, où seront attablés tous les rachetés. Alors, lorsque Jésus-Christ sera revenu, il n'y aura plus de larmes, mais la joie, plus de deuil, mais la fête pour l'éternité. Et la toute fin du livre d'Esther, l'épilogue, le chapitre 10, annonce à sa manière ce temps de paix. Je vous invite à terminer donc la lecture du livre d'Esther avec ce chapitre 10 qui contient les trois derniers versets. Le roi Assuérus soumit à la corvée aussi bien la partie continentale du pays que les îles. Tout ce qu'il a accompli par sa puissance et sa force, ainsi que les détails sur le rôle important qu'il a accordé à Mardochée, cela est décrit dans les archives des rois, des Mèdes et des Perses. En effet, le juif Mardochée était l'adjoint du roi Assuérus. Il jouait un rôle important pour les juifs et était très apprécié de ses nombreux frères. Il recherchait le bonheur de son peuple et contribua par ses paroles au bien-être de toute sa lignée. Le récit termine sur un rappel de la puissance à l'époque du roi perse et aussi un rappel de l'ascension de Mardochée. Mardochée qui était un serviteur à la porte du roi et qui est devenu premier ministre du royaume perse. Nous pouvons tirer de l'exemple de Mardochée l'exemple de... Voilà. C'est un exemple qui peut nous inspirer dans nos relations les uns avec les autres. Il recherchait le bonheur de son peuple. Il était très apprécié de ses nombreux frères. Et il contribua par ses paroles au bien-être de toute sa lignée. La joie, la bonté, la droiture de Mardochée a des effets pour ses compatriotes, pour ses frères et pour sa famille. Il y a quelque chose qui se transmet de génération en génération et qui peut aussi nous servir d'exemple. Si nous sommes parents ou si nous travaillons dans une association ou tout simplement dans notre vie d'église. L'église, et je terminerai par là, l'église est aussi un avant-goût de ce genre de relations qui nous attendent pour l'éternité. Et donc, c'est maintenant que nous avons à commencer le travail. Et comme Étoile l'a annoncé tout à l'heure, à partir de dimanche prochain, nous démarrerons un nouveau thème. L'année dernière, c'était « Seigneur, apprends-nous à prier ». Cette année, nous allons travailler sur le pardon. Et nous pourrons peut-être voir aussi concrètement comment nous pouvons apprendre à nous pardonner les uns les autres, sur la base du pardon que Dieu nous a accordé en Jésus-Christ. Nous allons terminer par la prière. Seigneur, à la fin de ce parcours du livre d'Esther, et en lien avec ce culte de reconnaissance aujourd'hui, nous voulons tout simplement te dire merci. Merci parce que tu es un Dieu qui nous sauve. Un Dieu qui ne fait pas le mal, mais qui veut transformer le mal en bien pour ta gloire. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous as appris dans cette histoire d'Esther. Aide-nous à ne pas l'oublier. Aide-nous à la lire, à la relire peut-être pendant cette année ou dans les semaines qui viennent, pour que nous puissions encore puiser dans ce texte les bénédictions et la nourriture que tu veux nous donner. Merci pour l'exemple de Mardoché. Aide-nous à être un frère ou une sœur encourageant pour l'assemblée. Merci pour l'exemple d'Esther. Merci pour son courage. Aide-nous, nous aussi, à être courageux dans le service que tu nous confies. Merci pour l'exemple mauvais de Haman. Aide-nous à ne pas l'imiter. Garde-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Père Céleste, nous t'en prions. Aide-nous à ne pas rendre le mal pour le mal, mais à faire ce qui est bien à tes yeux. Et par-dessus tout, merci pour le salut que tu as accompli en Jésus-Christ et qui fait que nous sommes là réunis ce matin et qui fait que nous allons pouvoir passer cette semaine avec toi, par ta grâce. Amen.